Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau concept d'On se pose, on prend une bière. Alors dans ce podcast, on va discuter d'un thème ou d'un sujet en compagnie de notre invité. Pour ce premier épisode, on accueille Louis Arthur, avec qui on va parler créativité.
Hé hey mec !
Quoi ?
C'est le podcast !
Ah ouais ? Lequel ?
On se pose, on prend une bière !
Apéro !
Bon du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial d'On se pose, on prend une bière, puisqu'on a avec nous un invité de marque, Louis Arthur. Comment tu vas ?
Ben ça va bien, merci, et toi ?
Ben super, merci.
On peut se tutoyer ?
Bien sûr, okay. Évidemment. Ça nous fait très plaisir de t'avoir ici avec nous pour cet épisode. Pour commencer, on va parler un peu de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je raconte des histoires, qu'elles soient sur scène quand on peut monter sur scène, ou hors de scène, que ce soit sur Instagram, sur des chroniques ou en podcast. Ça, c'est pour mon activité artistique. Sinon, j'ai un travail ici également à côté. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'artistique, je pense.
Effectivement. Donc moi, si je devais donner un mot pour définir ton parcours, ça serait vraiment la créativité. Aujourd'hui, tu es humoriste, narrateur, blogueur. T'es un peu un poète d'Instagram, si on peut te qualifier comme ça.
J'aime bien.
Tant mieux. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est la créativité, l'imagination. Et donc, j'ai quelques petites questions à ce propos à te poser. Donc, pour commencer, comment est-ce que tu penses tes concepts ? Comment est-ce que tu imagines toutes tes idées, tes spectacles, tes petits podcasts que tu écris, que tu partages sur Instagram ? Est-ce que tu as des techniques pour créer ? Ou alors, est-ce que tu te réserves des petits temps dans ta journée pour créer ? Ou alors, est-ce que c'est juste instinctif comme ça ?
C'est un mélange de tout ça, en fait. J'ai la méthode ancienne, hein, c'est-à-dire que j'ai mon petit carnet, okay. Un stylo. Je suis quelqu'un dans la vie de hyper observateur, très, très calme, très silencieux, que ce soit en soirée ou dans la vie ou autre. Donc voilà, j'observe énormément, beaucoup, beaucoup de choses. Je prends plein de notes. Et voilà, après, je mets tout ça bout à bout. Je me fais... je suis très scolaire, donc j'ai des listes de lecture. J'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup d'interviews d'artistes ou de journalistes qui m'inspirent. Je me plonge un petit peu dans plein de lectures. J'observe plein de formes narratives. Je vois un petit peu ce qui me touche. Je suis très cinéphile également. Donc voilà, et je regarde un petit peu ce qui me touche, ce qui me plaît. Je regarde la construction des choses, des épisodes, même en série, par exemple. Et j'essaie d'analyser, de comprendre comment dans la construction, qu'elle soit narrative, visuelle ou sonore, qu'est-ce qui a pu me toucher, qu'est-ce qui a pu m'interpeller. Et je m'inspire un petit peu des constructions narratives qui me plaisent justement pour après les mélanger avec mes propres influences et mes propres idées pour essayer de construire différentes choses. Et après, en fonction du propos ou de l'histoire que j'ai envie de raconter, dès le départ, je me dis tiens, ça, c'est quelque chose qui va plutôt passer à l'écrit, ou ça, c'est plutôt quelque chose qui va passer à l'oral, ou quelque chose qui va passer sur scène. Donc en fonction de l'angle, en fait, de ce que j'ai envie de raconter, j'ai différentes formes d'expression que j'utilise en fonction du propos.
Et du coup, tu t'inspires beaucoup de ce que tu écoutes, de ce que tu regardes au quotidien ? C'est quelque chose qui t'aide à créer ?
Oui, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui... Et au-delà, en fait, de ce que je regarde, ce qui m'inspire beaucoup en général, c'est les parcours des personnes. J'adore me plonger dans... je pense à un podcast, par exemple, de Lorraine Bastide, qui est La Poudre. Je ne sais pas si... Alors, il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent oui. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps à écouter le podcast de Lorraine Bastide. Le parcours des personnes m'inspire beaucoup, en fait. Ça... En fait, j'essaie de raconter des choses très personnelles ou des choses dont j'ai envie de parler. Et c'est très inspirant, en fait, d'écouter des gens qui ont réussi à créer et comment ça s'est... le cheminement qui a eu. Donc, je me suis peut-être un petit peu écarté de la question, mais c'est en tout cas, ce que j'écoute, oui, m'inspire beaucoup.
Et c'est vrai que tu t'inspires aussi de ta vie à toi, de ta personne et des personnes qui t'entourent. Est-ce que pour toi, c'est très important de s'inspirer de sa vie pour développer sa créativité, ou alors est-ce qu'au contraire il faudrait plus s'inspirer, un peu se laisser de côté pour laisser plus place à sa créativité ?
Un mélange des deux, j'aurais tendance à dire. Moi, ce qui me nourrit, c'est effectivement des choses que j'ai pu vivre ou de voir d'autres personnes vivre. Après, je pense qu'il faut toujours... Moi, en tout cas, mon parti pris, c'est d'avoir un peu de recul par rapport à ce que je raconte. Je ne sais pas raconter des choses qui viennent de m'arriver. Hormis une fois cet été, j'ai réussi à créer quelque chose sur scène par rapport à une situation très gênante que j'ai vécue. Mais sinon, je ne suis pas par rapport à d'autres humoristes qui font vraiment du stand-up et qui réagissent à l'actualité ou à des choses très personnelles. Moi, c'est vraiment, il faut... Je suis quelqu'un vraiment qui est très émotif, hypersensible. Donc, il faut que j'ai pris un peu de recul par rapport à la situation pour pouvoir exprimer et en créer quelque chose. Sinon, j'aurais tendance à dire que j'allais... créer des choses forcément trop premier degré. Ouais. Moi j'aime beaucoup l'autodérision, je pense que ça se ressent si
spectacle.
Voilà. Ouais. Donc je sais plus quelle était la question, mais en tout cas.
La question, oui, c'était est-ce qu'il faut laisser de côté sa vie plus pour développer sa créativité ou alors est-ce que c'est vraiment important de...
C'est un mélange, ouais.
C'est ça, c'est un petit mélange des deux. En ce moment, on est dans une période un peu compliquée, une crise sanitaire, Covid et tout ça. Ouais. Ce qui bouscule un peu tous nos emplois du temps, tous nos plannings. Je sais que ton spectacle, du coup, t'as pas pu le jouer dans toutes les salles de prévu. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir une deadline, donc je suppose que t'avais une deadline pour finir ton spectacle, pour le répéter plusieurs fois, est-ce que pour toi, ça t'aide à stimuler ta créativité? Ou alors est-ce qu'au contraire, ça te bloque un peu
Ni l'un ni l'autre, en fait. Je prends la contrainte. J'ai pas vécu trop mal ce... Pas, bien évidemment au regard des personnes qui sont tombées malades, tout ça, mais moi tout ce contexte sanitaire, je ne l'ai pas vécu vraiment comme un couperet en fait par rapport à l'arrêt de la création. Moi je suis quelqu'un qui ne fait pas ça depuis non plus 10 ans, ce n'est pas encore ma profession, donc déjà je me suis dit, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul par rapport à une étape et un processus de création qui a été finalement très rapide. J'ai eu la chance très très vite de pouvoir monter sur scène, d'être invité de plus en plus, ça fait un peu instant Mélanie Laurent, pardon, je suis désolé, mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir pas trop avoir du mal à monter sur scène et à pouvoir défendre mes idées, mes propositions artistiques, donc ça allait assez vite, et il m'a fallu ce recul un petit peu pour faire le bilan de ces premiers mois artistiques qui ont été denses, qui remuent intérieurement aussi, c'est émotionnellement très intense de vivre ça de manière assez rapide. Donc voilà, je l'ai pris comme quelque chose un petit peu pour faire le bilan, écouter les autres, prendre du temps pour lire, pour écouter, etc. Et c'est vrai que tu parlais d'un spectacle, mais en fait j'ai créé deux spectacles, puisqu'il y a eu ce premier spectacle qui est né juste avant le premier confinement.
D'accord.
Et que j'ai eu l'occasion de jouer, et ça a été écrit très vite, c'était très jeune. Et bizarrement, ce qui s'est passé, c'est que je pensais être très éloigné des scènes de stand-up. Je pensais plutôt aller me diriger vers du théâtre plus classique. Et finalement, ce sont plutôt les lieux de stand-up dans lesquels ça a marché, ça a pris et qui m'ont rappelé. Donc pendant le premier confinement, j'ai créé un deuxième spectacle.
D'accord.
En me disant, le premier confinement, il y avait quand même un lien dans ce que je voulais raconter, mais le premier confinement a arrêté un petit peu cette étape du premier spectacle, pour lequel il y avait une metteuse en scène, un régisseur, donc avec une certaine économie. Voilà, et je me suis dit... Après le confinement, ça va être dur de trouver sa place quand on est débutant, quand il va y avoir tous les reports de spectacle ou autre. Donc j'ai écrit un deuxième spectacle en me disant, tiens, je vais créer quelque chose de différent, uniquement dédié pour des petits lieux qui voudront peut-être bien de moi, sur des petits lieux de 40-50 places, dédiés au stand-up, sans équipe et sans économie autour. Donc ça a été très stimulant. On garde un petit peu, je dis on, parce que je travaille vraiment en équipe.
Ouais.
C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et du coup, c'est toute une équipe qui s'est, de manière un petit peu magique, je ne sais pas d'où sont arrivés les gens, mais qui s'est constituée avec des profils très variés. Et donc, on crée ça tous ensemble. Et voilà, et on discute beaucoup comme on le fait là aujourd'hui. C'est même très chouette de discuter avec vous aussi, parce que ça remet un petit peu les idées en place. Ça se dit, tiens, j'ai fait quelque chose qui a donné envie, qui vous a donné envie de venir me faire parler aujourd'hui. Enfin, voilà, donc... Je sais plus, je suis hyper bavard, je suis désolé.
C'est pas grave, c'est bien.
Il y aura un petit travail de montage.
C'est bien de s'éparpiller un peu.
En gros, ça fait 5-6 personnes minimum qui m'accompagnent sur la création de ce projet et c'est hyper important.
Ça permet une émulation créative, peut-être d'être à plusieurs.
C'est ça.
Ça doit aider.
On se fait des petits mood boards, on s'envoie plein de trucs. Enfin voilà, et c'est important d'avoir un regard extérieur pour aussi avancer. Et surtout, ce qui est important, enfin, en tout cas pour moi, dans la démarche de créativité, c'est effectivement arriver à prendre du recul entre ce qu'on pensait vouloir faire au départ, ce qu'on pense, ce qu'on ne perçoit pas, c'est ce qu'on transmet. Et écouter aussi les autres qui te disent, ça c'est bien, mais ça te va mieux. Et
c'est important de recevoir la critique aussi, ce qui n'est pas toujours facile au début quand on commence. T'as tendance à se braquer aux premiers abords, mais en fait c'est vrai que c'est intéressant de fonder son évolution sur des critiques de gens qui nous entourent.
C'est ça, par exemple, moi je parlais tout à l'heure du milieu du stand-up, je pensais pas du tout me retrouver sur des scènes vraiment de stand-up, je pense au Kings of Comedy Club à Bruxelles où j'ai eu la chance de jouer à plusieurs reprises, qui est vraiment un temple du stand-up, et mes amis qui font aussi du stand-up m'ont dit « bon bah il y a un lieu où t'iras pas, ce sera bien celui-ci parce que tu fais pas de stand-up », et finalement c'est celui qui m'a le plus rappelé.
On va parler maintenant de l'aspect un peu plus musical, ce que tu proposes. que ce soit dans tes podcasts ou même dans toutes les références que tu emploies, il y a énormément d'artistes musicaux. C'est peut-être lié d'ailleurs au fait que tu étais programmateur avant et que du coup tu as une culture musicale assez grande. Est-ce que tu utilises souvent de la musique pour penser, pour imaginer, quand tu écris par exemple, est-ce que tu aimes bien écouter de la musique?
Alors moi je vis en musique. D'ailleurs j'ai une formation de musicien au départ, enfin de musicien, je suis absolument très mauvais musicien, mais j'ai fait le conservatoire. Donc j'ai une formation très classique au départ, j'ai fait du piano, j'ai fait un peu de violon, donc j'ai cette culture musicale dès le départ, effectivement ce qui m'a amené vers la programmation musicale pop et autres styles. Donc oui, moi je vis en permanence avec de la musique, j'ai une maison remplie d'outils différents pour écouter de la musique, ça va du vinyle en passant par le vieil appareil à cassette, en passant par... J'aime vraiment en fait au niveau de la musique, et c'est pour ça que ça m'inspire beaucoup dans la création. Écouter, j'écris toujours en musique, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi. Et c'est vrai que même mes petites chroniques d'une minute que je fais sur Instagram, en fait, c'est presque composé comme des chansons pop finalement. C'est ça qui m'inspire et qui me plaît dans la musique et dans la chanson française notamment, c'est que je me dis, bon, il y a des gens qui arrivent à faire des formats de 3-4 minutes et qui arrivent à raconter une histoire en si peu de temps, en si peu de mots. Et c'est vraiment ça qui m'inspirait, parce que comme vous avez pu le constater, je suis hyper bavard. Et donc moi, la contrainte, tout à l'heure tu parlais de deadline, la deadline, elle est pas, c'est pas ce qui va me motiver, c'est pas de me dire je vais jouer le 12 octobre ou le 25 mars, c'est plutôt de me dire, t'as une minute pour raconter une histoire, force-toi à centrer ton propos et essayer d'embarquer les gens pour...
C'est aussi de se mettre une contrainte de temps avec le format d'Instagram d'une minute, de se dire en une minute, je vais faire toute mon histoire, c'est assez technique, t'arrives très bien à le faire du coup, avec un certain rythme... qui est également rythmé par la musique, donc ça c'est assez technique de ce point de vue-là. Et du coup, tu es toujours en développement d'idées, donc t'étais, comme tu le disais, tu étais à l'écrit initialement, ensuite tu as évolué sur de l'audio, peut-être de la vidéo un jour, je ne sais pas si tu aimerais te tourner vers...
Alors la vidéo, il faudrait que j'aie un rapport un peu plus à l'aise avec on va dire mon image et mon corps. Ça paraît un peu, d'un coup, on a l'impression d'être dans une confession intime. Mais c'est déjà l'expression artistique, dès qu'on publie quelque chose, en fait, on se livre quand même beaucoup. Et le côté un peu que vocal ou écrit crée quand même une certaine distance. C'est-à-dire que c'est pas complètement moi qui incarne ça. Et je maîtrise pas complètement encore, c'est tout le travail que je fais au niveau du théâtre, etc. Ce que je traduis corporellement, ce que je traduis visuellement. On en discutait un petit peu avant. J'aime bien la notion de durabilité aussi. Et j'aime l'idée que si je construis une vidéo, ce sera pas pour faire une vidéo pour me montrer forcément, ce sera parce que ça aurait été pensé que le support vidéo servira à l'histoire. Là, on est en train de travailler avec ce styliste justement parce que je suis en train de... On a un petit projet en tête qui est très chouette autour de l'affiche, autour de l'identité visuelle, parce que j'ai aussi envie d'amener la réflexion autour de la durabilité, même qu'elle soit vestimentaire, dans le milieu du spectacle, etc. Donc je travaille avec quelqu'un qui récupère des vêtements, qui retravaille au niveau du stylisme. On s'est fait tout un petit mood board pour avoir justement un style qui me plaît vraiment. Donc tout ça, je pense que quand ce sera abouti, a priori dans pas très longtemps, là ça me servira parce que ce sera vraiment l'identité du personnage, ce sera vraiment au raccord, et même les vêtements, tout ce que je présenterai, aura vraiment une importance en fait.
Et du coup, tu développes toujours sans cesse des idées, des concepts. Donc là, tu nous l'as dit, tu travailles avec un styliste sur un nouveau projet.
Ouais.
Est-ce que tu es toujours dans ce besoin de créer, dans ce besoin d'imaginer quelque chose, dans cette soif un peu insatiable?
Ouais,
exactement.
Insatiable.
Est-ce que ouais, tu es toujours dans ce besoin de créer? Est-ce que c'est quelque chose qui te stimule au quotidien?
Je pense que c'est un peu comme le sport. Alors, je suis très mal placé pour parler de sport, mais...
Tout le monde en sait.
Mais non, c'est... En fait, j'ai toujours 50 000 idées, 50 envies, plein de projets en tête. Ce qui est vraiment chouette, c'est tout ce travail collectif qui m'a vraiment plu, en fait. Et c'est bête, hein, on se dit souvent... ça sert à rien, le nombre d'abonnés, tout ça. Bah, quelque part, à un moment donné, ça légitime aussi un peu le propos, c'est-à-dire que c'est pas la course à se dire il me faut 100 000 abonnés. Non, mais loin, j'en ai 2500. Mais...
Bientôt peut-être.
Bientôt peut-être. Mais en fait, à partir du moment où j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui ne sont ni de ma famille, ni des amis, et qui viennent de je ne sais où pour dire ces propos m'ont touché, ce texte m'a plu, ça m'a fait rire, continuer, bah. c'est ça en fait qui, à un moment donné, c'est un petit déclic quand on a des personnes comme ça qu'on connaît pas, qui commencent à exprimer un ressenti, bah là on se dit ah c'est chouette, on a touché à quelque chose qui est hyper intéressant, et du coup bah ça donne envie en fait, ça stimule, ça donne envie de continuer. Après je pense qu'il faut pas tomber dans le piège de la surproduction, j'en suis pas encore là, mais je pense effectivement après ça peut vite être un piège de se dire bah tiens j'ai trouvé un support qui fonctionne bien, qui va engendrer plein d'abonnés ou plein de gens qui vont me suivre, etc. Moi mon projet au départ il est quand même de raconter des histoires sur scène. Donc à un moment donné il faudra jamais que ça prenne le pas sur ce projet là qui est celui qui me tient le plus à cœur. On n'en est pas là, et puis de toute façon toutes les salles de spectacle sont fermées pour le moment. Mais oui en fait sur la question est-ce que c'est un besoin de permanent de stimulation. C'est automatique et comme je te le disais au début, j'ai toujours mon petit carnet, je prends des notes. Dès que j'ai quelque chose qui m'inspire, qui me donne envie, là je vais republier prochainement une chronique écrite d'un texte qui est un des premiers textes que j'ai écrit il y a 2 ans. Donc voilà, j'ai tout un petit panel de choses comme ça sous le coude et là j'aurais envie de parler de ça à ce moment-là.
Alors moi j'avais une question, je suis toujours assez fascinée par la naissance d'une fibre artistique, donc est-ce que tu as eu une rencontre ou même un ouvrage, ou rien qu'un besoin de transmettre, enfin une histoire, c'est quoi l'histoire de ton art en fait, en fin de compte ?
Là, l'histoire, l'élément déclencheur, le déclic en fait, donc comme le disait Malo, moi j'ai été programmateur musical pendant un certain temps, et c'est vrai que quand je voyais tous les concerts, j'ai toujours été passionné, mais j'ai jamais eu ce déclic artistique en voyant des concerts en fait. Je me voyais vraiment en spectateur, mais j'avais pas cette fibre-là. Et un jour j'ai vu un spectacle, alors j'étais aussi très cinéphile et autres, mais un jour j'ai vu un spectacle d'une artiste qui s'appelle Camille Chamou, qui a fait un spectacle qui s'appelle Né sous Giscard, et présenté comme un spectacle d'humour. Et d'un coup je me suis retrouvé face à ce spectacle où j'ai pleuré. Voilà, mon côté hypersensible m'amène régulièrement à pleurer dans la vie. Et je suis sorti de cette représentation en me disant ah ça peut être ça aussi. On peut raconter des choses de cette manière-là, avec cette expression artistique. Ça a été vraiment ça l'élément déclencheur pour moi de se dire bah tiens, waouh, on peut faire ça et bah allons-y. Et après ça a été un long processus, ça n'a pas pris non plus 30 ans, mais au départ moi je me sentais pas légitime de monter sur scène ou quoi que ce soit parce que je n'avais jamais fait de théâtre encore il y a un peu plus de 2 ans. Donc moi la passion était vraiment de se dire tiens j'ai envie de raconter une histoire, je vais poser des mots et je vais les donner à quelqu'un, à un comédien dont c'est le métier, etc. Parce que on parlait de timidité ou d'hypersensibilité. Moi, effectivement, je ne m'imaginais pas pouvoir faire ça et je ne pensais pas que ça allait intéresser qui que ce soit. Donc, je l'ai transmis et quand je suis allé rencontrer plusieurs personnes, elles m'ont demandé « Est-ce que tu peux nous lire ça ?» Parce qu'en fait, entre écrire un texte et le donner à jouer, entre l'intention de jeu qu'on peut y placer derrière et ce que tu as écrit, peut-être qu'il peut y avoir un peu un travestissement ou autre. Et quand j'ai commencé à raconter cette histoire que j'avais écrite, qui est devenue mon premier spectacle, les gens m'ont dit « Mais en fait, il faut que tu le fasses toi, parce que c'est cool de t'écouter, c'est chouette. » Donc, il n'y a pas eu de naissance peut-être d'envie d'être un artiste au départ. C'était tout un processus en fait de me dire « Ok, on peut raconter des histoires comme ça sur scène, et ça peut toucher des gens, ça m'a touché, ça me donne envie moi-même de créer quelque chose. » Donc c'est plein d'étapes, et après je parlais tout à l'heure de légitimisation, je ne sais pas si ça se dit ce mot, légitimisation, mais légitimité c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand j'ai fait cette école des arts de l'humour, moi j'étais parti pour faire la section plutôt auteur, et c'est lorsque j'ai passé une audition que j'ai dû présenter mes textes pareil à l'oral, on m'a dit non mais en fait on va vous prendre mais vous allez aller aussi sur scène. Et donc... L'envie d'être artiste ou elle est venue progressivement avec des gens, progressivement avec de la bienveillance, avec des gens qui m'ont poussé vers cette voie-là. Et j'ai eu vraiment, vraiment plaisir à jouer sur scène depuis 1 an, peut-être sur les 2 ans. C'est assez récent. J'ai arrêté de m'excuser depuis peu, d'être sur scène aussi. Enfin voilà, je suis encore dans cette phase-là où je ne me suis pas levé un jour en disant c'est sûr, je vais être artiste et je vais être sur scène. C'était plutôt plein d'étapes en me disant tiens, j'ai envie de raconter une histoire. Mais peut-être pas pour moi, mais peut-être pas par moi. Enfin voilà, c'est plein de toutes ces étapes. Je suis vraiment, moi, ce que je retiens de cette première partie de mon expérience artistique, c'est vraiment toutes ces rencontres et tous ces gens avec qui je n'aurais jamais eu de contact. Si j'avais pas fait ce projet-là en fait. J'ai vraiment eu l'envie de me dire bah non, contrairement à ce qu'on a essayé de me dire à un moment donné, je vais pas aller forcément dans des salles de théâtre classique pour rencontrer des gens qui viennent du même milieu que moi, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient social ou autre. Ce qui m'a plu vraiment, c'était de me dire, ben ouais, le lundi soir à 21h, je vais être sur une scène ouverte avec Maë, avec Céline, avec tous ces gens. On n'a pas les mêmes âges, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas du tout même le public qui est là. Il y a eu quand même, moi j'ai découvert une sorte de snobisme quand même. On le sait, je ne suis pas naïf, mais c'est vrai que moi je viens d'un milieu plutôt même d'un point de vue scolaire, d'un point de vue professionnel, plutôt on va dire privilégié. Avec, on va dire, très blanc, tout ça. Pardon. Et quand j'ai commencé à dire à mon environnement professionnel ou personnel, je vais aller dans des endroits comme ça, on m'a un peu dit, bah, pourquoi ? Mais enfin. Et je dis, bah ouais, mais si. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu plus de facilité à être écouté, dans mon projet artistique. C'est-à-dire que dans le milieu dans lequel je viens, quand j'ai commencé à dire que je voulais moi-même m'exprimer artistiquement, on m'a dit bah tu ne peux pas en fait, puisque toi-même tu as un processus scolaire qui fait que tu es plutôt dédié normalement à programmer, à diriger, à encadrer. Non, tu viens pas de là, donc tu restes à ta place. Alors que je suis arrivé dans des univers avec du stand-up, avec tous les gens que j'ai rencontrés, personne s'est préoccupé de savoir d'où je venais, et ça m'a fait du bien, et de se dire en fait t'as quelque chose à raconter, bah vas-y, monte sur scène. Et il n'y a pas eu cette appréhension-là négative. Et je trouve que ça bouscule un petit peu tous les schémas qu'on peut avoir, et même en termes d'âge aussi, puisque moi, je ne suis pas du tout de la même génération que vous. Et moi, j'ai un regard hyper bienveillant, hyper positif, en fait, sur la jeune génération. Enfin, je ne suis pas non plus, j'ai pas 60 ans. Mais, ça déconstruit un petit peu aussi les images qu'on peut transmettre aussi et qu'on peut avoir. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, en fait, d'être avec toute cette génération-là, c'est de se dire, attends, on a une génération qui est consciente, qui s'interroge, qui remet en question, qui lit, qui découvre, qui peut se retrouver face à quelqu'un comme moi dans une soirée stand-up, qui va être au milieu de gens qui font que du stand-up un peu d'actualité dans l'école ou autre, et d'arriver avec quelqu'un qui est hyper calme, qui parle d'homosexualité, de choses complètement improbables, ça plaît, ça pose des questions. Moi j'ai vécu des choses hyper, hyper enthousiasmantes en fait, et du coup ça nourrit vraiment... Ouais, cette renaissance dont tu parlais, c'est plutôt une ouverture qu'une renaissance, et ça donne confiance.
Alors du coup, moi j'avais une question peut-être moins dirigée sur la créativité, mais peut-être ouais. Plus sur le parcours. Tu disais que tu n'avais pas du tout d'attache dans le milieu de base, que c'était pas du tout ton milieu d'origine. Comment on fait quand on n'a pas de contact, quand on n'a pas de personnes un peu pour nous épauler, et surtout pour dépasser un peu le syndrome de l'imposteur, de se dire qu'on n'est pas forcément légitime à faire ça, à suivre sa passion. Comment on fait pour malgré tout arriver à se faire une place au final dans le milieu?
Alors le syndrome de l'imposteur, moi je l'ai toujours. Et de toute façon, j'ai professionnellement, artistiquement rien encore prouvé, j'en suis encore au début, même si j'ai fait plein de choses, mais j'en discutais, je suis devenu... oui, ami sur Instagram et même dans la vraie vie, puisqu'on s'est rencontré avec un autre humoriste qui s'appelle Tristan Lepin. On en a discuté encore récemment, et lui-même, ça fait 6 ans qu'il tourne, il a fait les plus grandes salles et autres, et il souffre encore du syndrome de l'imposteur. Après, sur comment on fait quand on n'a pas de contact, c'est un peu ça la chance du milieu du stand-up, c'est-à-dire qu'on est encore, malgré tout, dans un environnement où, moi, pour jouer au Spotlight, en fait, il a suffi d'envoyer un message un jour à Isabelle, qui est la programmatrice du Spotlight. C'est le principe, c'est-à-dire que pas besoin de vidéo ni rien du tout. On dit voilà, j'ai envie de venir, est-ce que je peux venir ? Le planning est un petit peu chargé, mais il y a plein de lieux comme ça qui offrent cette possibilité de venir s'exprimer. Après, ça passe ou ça casse, mais il faut juste franchir le pas, en fait. Moi, c'est souvent des discussions que j'ai avec des personnes qui viennent à la fin des scènes ouvertes ou du spectacle, qui me disent « Mais comment t'as fait ?» Ben, en fait, j'ai écrit. Et voilà. Après, ce qui m'a aidé, je pense, c'est que effectivement, je viens pas de ce milieu-là, mais j'étais programmateur musical et j'ai un petit peu quand même les codes professionnels. Donc je sais, par rapport à des gens qui ne viennent pas d'un milieu où comment on fait pour être programmé ou autre, je connais un petit peu les codes, c'est-à-dire que je sais comment on se présente un petit peu, je sais un petit peu voilà, à quel moment on se présente. C'est sûr que c'est pas la veille pour le lendemain qu'on écrit pour dire est-ce que je peux venir jouer, non. Donc j'avais un petit peu ces codes-là. Après, moi j'ai passé beaucoup de temps à d'abord me dire « qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quel sera mon propos et qu'est-ce que ça va être. Et donc ça aide un petit peu aussi à, quand on se présente dans des théâtres, à être pris, parce qu'au moins il y a une entrée et on sait de quoi on va parler. Après, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est les risques et c'est le boulot qu'il y a à faire, c'est de se dire est-ce que ça va plaire ou pas. Mais voilà, je pense que c'est faut, à un moment donné, quand on veut s'exprimer, faut prendre les choses en main. Et des fois on nous dit oui, il y a plein de fois on nous dit non. C'est comme tout à l'heure, je disais, on va forcément s'attacher à la personne qui va nous faire une critique négative. C'est forcément la personne, le programmateur ou la programmatrice qui va dire non, qui va créer des... Alors que c'est ça aussi l'intérêt d'être en équipe. Des fois, moi j'ai un côté un peu... J'arriverai jamais. Et on me dit, mais tu sais que t'as déjà joué à Paris, t'es programmé à Lyon, t'es programmé à Bruxelles. Oui, mais telle personne, elle m'a dit non. Oui, ça arrivera et ça continuera d'arriver, donc... C'est beaucoup de... Mais ce qui tient, je pense, c'est que quand on fait ça pour les bonnes raisons, on accepte mieux les refus aussi. Et moi, le process qui est en train de se créer aussi, c'est que quand on commence, on a envie de jouer partout et on a envie d'être pris un peu partout. Et finalement, ce qui est en train de se produire, c'est que non, je ne serai pas pris partout, je serai pris dans les endroits qui ont envie et qui sont cohérents avec ce que je raconte.
Pour finir, on va faire des petites questions à trous, si ça te va.
Je suis la personne la plus hésitante au monde, hein. Donc s'il me faut de la spontanéité et répondre à un truc maintenant, moi je joue ma vie à chaque fois.
Donc, il y aura un montage, t'inquiète. Okay. Non, ne t'inquiète pas. Si un lieu idéal dans lequel j'aime développer ma créativité est...
Je viens de me créer un bureau dans ma maison. C'est un peu comme Virginia Woolf qui disait une chambre à soi, bah, c'est ça, j'ai trouvé ma chambre à moi dans ma maison.
T'as fait un petit bureau, du coup.
Voilà.
Ce qui m'a donné envie de faire autre chose que mon métier, c'est...
C'est Juliette Armanet qui m'a donné envie de faire autre chose que mon métier. Non, mais c'est vraiment plus.
Très très bonne chanteuse. La dernière musique qui m'a inspiré pour mon podcast, c'est...
Requin Chagrin, c'est ma forte.
Le moment de la journée dans lequel...
Ah, mais là, j'étais au taquet.
Ça, c'est très fort.
J'écoute en boucle ce truc-là, il est en train de m'inspirer à un truc, donc là, il va y avoir des hésitations.
Le moment de la journée dans lequel je me sens le plus créatif, c'est...
À tout moment.
Tout moment. Finalement, si je devais définir la créativité, je dirais...
La vache.
Dure celle-là.
La vache.
La vache.
La vache.
La vache.
Ouais. Je sèche.
Tu n'as pas de problème. Et si je devais recommander un podcast, je recommanderais...
Alors, il y a l'option un peu faillite.
C'est ça. Voilà. T'as le choix sur celle-là. Non, c'était un podcast que...
On peut pas le dire.
Non, mais la poudre de Lorraine Bastide, pour moi, ça a été un tel déclic sur tellement de choses que la poudre de Lorraine Bastide.
La poudre de Lorraine Bastide. Et bah merci à toi
d'avoir
accordé un peu de temps. Ça nous a fait très très plaisir de t'avoir aujourd'hui, aussi. De discuter avec toi de ton parcours, de tout ce que t'as vécu et puis de comment tu te ressens dans cet aspect créatif. Merci à toi.
Merci à vous.
Merci.